One, two, test.
Hey, bon matin.
Bon matin. Salut les enfants. Permettez-moi de vous raconter une histoire, OK? C'est l'histoire de la famille Riopel qui achetait son café à l'épicerie. Quand on a vu la face à Christian, là, on s'est dit, là, on va commencer à boire du café de Christian. Mais là, à un moment donné, ça cogne à la porte chez nous. Puis là, il est apparu l'espèce de lumière du Saint-Esprit qui a juste fait « Non, c'est parce que Christian, t'es pas à la hauteur, tu connais rien dans le café! » Boum, 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 il a tout pris sa place comme ça. Dans le fond, depuis que Wiltor a cogné à la porte, Christian, il est out of the game. Ah, ma blonde fait dire qu'elle aime encore Christian, mais elle l'aime pour le gars, mais pas pour le café.
Son café très bon.
OK, mais là, c'est Wiltor, de oui, là. Fait que ça se pourrait que ça cause des chicanes de ménage, mais love is the key, love is the secret. Tant qu'il y a de l'amour, il y a du Wiltor, OK?
Bro. Hey, ça va, toi?
Ça va super bien. Ça fait longtemps que je t'ai parlé.
C'est longtemps qu'on s'est parlé, Joe. Je m'ennuie.
C'est pas comme si on venait d'enregistrer une heure de matériel.
À peine, mais non, du tout, du tout.
Je suis content d'aborder le sujet qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, Sébastien, parce que souvent, étant donné le métier que je fais, on est sollicité pour avoir... certaines capacités que les gens veulent qu'on leur transmette. Hein? Fait que ça, souvent, c'est facile de s'enflammer en l'ego en se voyant sur un piédestal. Mais aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous permet aussi de montrer qu'on est vraiment des êtres humains pas parfaits.
Loin de là, loin de là.
Puis c'est tellement puissant autant pour soi que pour celui qui l'écoute, des fois, d'entendre... les mauvais plis et les ombres de ceux qui peuvent parfois inspirer, tu sais. Parce que je le dis avec plein d'humilité, hein. Je le dis parce que des fois, on me le dit que c'est inspirant le propos que j'ai, tu sais. Mais je tiens à dire à quel point il y a une partie de ma vie qui ne l'est pas des fois inspirante, tu sais. Puis c'est important de pas être sur le chemin de la dévotion avec ceux qui nous inspirent. Parce que c'est souvent le début... d'une grande déception quand on fait ça.
Le début de la fin, comme on peut dire des fois.
Oui, ouais, exactement. Et tout ça sans dire c'était quoi le thème aujourd'hui, parce que je voulais te laisser l'annoncer.
Ben en fait, mon père m'a toujours dit, faire une erreur, mon gars, c'est pas grave. T'sais, les seules personnes qui font pas d'erreur, c'est ceux qui font rien. Puis c'est vrai, pareil, je veux dire, si tu fais rien, il n'y a pas de danger, tu tombes, il n'y a pas de danger, tu fais des erreurs. Faire des erreurs, encore là, c'est une chose. Ce qui est grave, comme il m'a toujours dit aussi, faire une erreur, c'est une chose. Quand tu fais une erreur qui est répétée, ça devient une décision. Le pourquoi je dis ça, c'est qu'avec toi, Joe, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde, parce qu'on me dit, on en fait toutes des erreurs, c'est humain de faire une erreur pour la première des choses qu'on va régler. Faites-en des erreurs, c'est important, je pense, d'en faire des erreurs. Ce qui est encore plus important, par contre, apprendre de celles-ci. De celle-ci, je parle donc bien, moi, le matin. C'est important d'apprendre de celle-ci. C'est important de comprendre pourquoi on a fait ces erreurs-là, puis quoi ne pas faire pour les répéter. Parce que je pense que c'est là, l'important, c'est de ne pas répéter nos erreurs.
Celle-ci.
Exactement, celle-ci. Puis avec moi, aujourd'hui, pour en jaser, la personne ressource pour ça, vous le savez, il est de retour cette année encore, comme un super-héros avec son masque, Jonathan Riopel, mon chum, mon frère d'âme. Mon frère d'une autre galaxie, d'une galaxie lointaine.
J'aime ça quand tu m'amènes dans l'univers de Marvel comme ça. Ça me donne plein de pouvoirs.
Pas tous les super-héros portent une cape, comme ils disent.
Exact. On va s'appeler bientôt les gardiens de la galaxie. J'aimerais ça faire ça, à un moment donné, une expédition avec toi.
Dans les galaxies?
Ouais.
Ben, moi, j'embarque.
Comme quand j'étais petit.
Un idiot à la fois.
Ouais. Mais pour y arriver.
Oui, oui. Pour y arriver.
Pour avoir su surmonter nos obstacles de vie et apprendre de nos erreurs. Sinon, on ne deviendra jamais des bons gardiens de la galaxie.
Exactement. Puis, on va regarder ça un petit peu, on va analyser ça. Tu as fait des erreurs, Joe. J'en ai fait. On en a toutes faites. Okay.
J'en ai sûrement fait au moins une aujourd'hui à date, puis une au moins hier aussi, puis j'en ferai probablement à tous les jours de ma vie.
Je pense que oui. Je pense que oui, mais est-ce que tu vas les refaire, ces erreurs-là? Théoriquement.
Tant et aussi longtemps que j'en aurais pas pris conscience. Je risque de répéter.
Et j'aime ce que tu viens de dire. Tant et aussi longtemps que tu n'en auras pas pris conscience. Ouais. Il faut aussi savoir que tu as fait l'erreur. Parce que tu peux faire une erreur momentanément, mm-hmm. qui fait que, sur le coup, tu ne sais pas que c'est une erreur. Ça peut prendre du temps avant que tu la comprennes que c'est une erreur, tu sais.
Oui, puis qui décide que c'est une erreur, hein? Ce que tu viens de vivre, tu sais, parce que ce qui est une erreur pour toi n'en est peut-être pas une pour quelqu'un d'autre aussi. Uh-huh. C'est là puis où c'est fun d'être son propre juge, tu sais, puis de décider que c'est une erreur. À partir du moment où on met l'étiquette dessus, on amorce un processus de changement, tu sais.
Uh-huh. Tu ouvres un bon point. Qu'est-ce qui fait, et où la ligne entre c'est une erreur pour moi et ça n'en est pas une pour toi?
La résonance désagréable que cette action-là va créer à l'intérieur de moi.
Okay.
C'est-à-dire le non-respect de quelque chose qui est important pour moi.
Une valeur.
Souvent, ça va être une valeur. Ouais.
Okay. Okay.
Et là, je vais dire, oh, peut-être que j'ai fait une erreur. Mais tant que ça ne fera pas résonner de façon désagréable quelque chose en dedans de moi, je ne prendrai pas conscience que mon action, c'est une erreur. Je vais penser que c'est correct parce que ça me fait bien vibrer en dedans. T'sais.
Puis est-ce que ça peut... Tu dis, là, ça te fait bien vibrer toi en dedans. Toi, ça peut te faire bien vibrer. Si ça affecte quelqu'un autour de toi, automatiquement, ça peut être une erreur aussi.
Est-ce que dans mes valeurs, c'est important d'être bienveillant par rapport à ceux qui okay. m'entourent? Si bien ça bien. L'est, ben, de savoir que ça cause du tort à quelqu'un, ça va créer quelque chose de désagréable en dedans de moi. Ouais, ça va venir déranger cette valeur-là, le souci de l'autre. Mais si je ne l'ai pas, moi, le souci de l'autre, même si ça cause du tort aux autres, ça va pas mal vibrer en dedans de moi, donc je ne verrai pas que c'est une erreur. Je vais dire que je m'en fous.
Puis là, la ligne entre justement une erreur pour toi n'est pas une erreur pour moi et une erreur pour moi n'est pas une erreur pour toi. Ouais. Quand on se rend compte qu'on l'a fait, cette erreur-là, là, mettons, on prend un exemple, justement, tu as fait quelque chose, Joe, tu m'as blessé. Tu as dit quelque chose qui m'a blessé. Tu ne veux pas que ça réarrive. Où est-ce qu'il faut déclencher? Où est-ce qu'il faut aller chercher une certaine... Je ne sais pas si on peut dire une maturité, une certaine bienveillance, une certaine sagesse pour se dire, OK, là, j'ai atteint justement une de mes valeurs, que ce soit le respect, la politesse, le savoir-vivre, l'orgueil, n'importe quoi, tu sais, une valeur qui te tient à cœur. Tu te rends compte que tu as brisé cette valeur, ben, tu l'as brisée. Tu l'as effleuré, tu l'as...
J'ai secoué le cocotier.
Ouais. Oui, tu as secoué le cocotier de ta valeur. Qu'est-ce qui fait... Comment on s'éloigne-tu du sujet, nous
autres? Non, mais on est rendu pas éthique, j'adore ça.
Mais c'est ça, tu sais. Là, où est-ce que tu prends conscience de ça? Puis qu'est-ce que tu fais pour ne pas la répéter? Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'on... Comme je disais, mon père m'avait souvent répété ça. N'oublie pas, une erreur que tu fais à répétition, c'est plus une erreur, c'est devenu une décision. Tu sais, je m'explique pour ça. T'es un adulte, tu conduis ton auto, tu passes direct sur un stop. C'est une erreur, on s'entend. C'est une erreur, tu t'enfreins la loi, tu pognes un ticket. Bon. La semaine d'après, passe encore direct sur un stop. Ah, c'est une erreur, c'est une... Là, tu n'as pas eu la semaine passée. Tu l'as fait une troisième fois. Tu es rendu là, c'est là que je dis, c'est plus une erreur. C'est rendu une décision. Tu fais exprès. Tu es rendu là, tu fais exprès. Qu'est-ce qui fait à un moment donné, où est-ce que tu déclines? Comme tu dis, oui, on vient de toucher aux valeurs. On vient de dire que ça vient enfreindre une valeur. Mais tu sais, des fois, justement, c'est plus fort que nous autres. On le refait. Mm-hmm. Comment on fait pour aller couper ça, rendu là?
Ouais. C'est la souffrance hein, qui fait qu'on arrête de se faire vivre des choses souffrantes. Sinon, c'est souffrante, sinon on continue. Uh-huh. Tu sais, moi, je vous ai dit que cet automne, j'avais fait une thérapie dans laquelle ouais. j'ai appris un programme quotidien d'hygiène émotionnelle.
Okay.
Le programme quotidien d'hygiène émotionnelle est basé sur l'idée que pourquoi on se laverait le corps à tous les jours, mais qu'on se laverait pas l'esprit puis les émotions à tous les jours mm-hmm. aussi. Un esprit sain dans un corps sain, il faudrait peut-être ouais. apprendre à laver les deux parties, tu sais, pas juste le corps. Mais... Okay. Puis dans le fond, moi, dans ce programme d'hygiène émotionnelle quotidien-là, j'ai une liste de 21 défauts de caractère que quand je les vis, ces défauts-là, ben ça fait mal à mes valeurs ou ça peut causer du tort à quelqu'un d'autre aussi.
Quand tu parles de 21 défauts, toi ou l'être humain en général?
Le programme d'hygiène émotionnelle, il y a 21 défauts de caractère. Okay, c'est ça. De l'être dedans, humain.
Okay.
Ouais, ben qui regroupe peut-être des centaines de défauts là,
c'est ça.
Ensemble. Et dans le fond, tu parlais d'importance d'en prendre conscience, sinon on ne fera jamais le changement. Ben, quand tu fais ton programme d'hygiène émotionnelle quotidien, puis que tu arrives vis-à-vis le défaut de caractère de l'intolérance ou de l'impatience, c'est bien plus facile de dire « Ah oui, à ce moment-là, dans ma journée, j'ai vraiment été impatient après telle personne. Peut-être que j'y ai causé du tort.
Ouais. »
Fait que là, après ça, oh, prise de conscience, puis là, je peux commencer à changer les choses. Est-ce que ça me fait mal de savoir que j'ai crié après cette personne-là à cause de mon impatience? Bien, maintenant que j'y pense, oui. Sur le coup, c'est comme du beurre dans le poêle, tu sais, j'ai laissé ça en arrière, mais dans le fond, c'est vrai, j'ai donc bien été méchant. Oh, prise de conscience.
Okay.
Après ça, dans ce programme-là, bien, il faut que je prenne en note à qui j'ai causé du tort, incluant moi-même, puis comment je peux réparer ça. Puis souvent, la démarche, c'est de dire... la prochaine fois que je vais rencontrer la personne, d'y demander « Hey, la dernière fois que je t'ai parlé, je t'ai dit telle affaire, tu sais, puis j'ai réalisé que j'aime pas ça, dire ça. Je sais pas si ça t'a blessé. » Souvent, les gens là, sont très humbles et disent « Non, non, ça m'a pas dérangé, tu sais.
Ouais, » parce qu'ils veulent pas te faire de peine à toi non plus. Là.
Ouais, puis déjà que t'oses le réaborder puis leur montrer que tu en as pris conscience, c'est presque déjà guéri la souffrance.
Okay, okay.
Si tu n'avais jamais reparlé, peut-être qu'ils auraient gardé cette petite crotte-là contre toi. Mais là, vu qu'ils voient que tu le sais puis que tu veux faire une démarche, c'est presque déjà réglé. Mais tu peux quand même dire, écoute, j'aimerais ça me racheter. Dis-moi donc, je peux-tu faire quelque chose pour réparer ce tort-là? Puis souvent, la personne va dire, ben non, déjà ça, c'est parfait.
Ouais.
Ou il y en a, ils ont été profondément blessés puis ça va ouvrir une grande discussion. Ou il y en a, ils vont dire, ben je vais prendre un câlin, puis ça va être réglé. Fait que là, fais-moi un câlin. Tu sais, ça peut être juste ça. Ou...
Okay.
Fait que moi, c'est ce qui m'aide beaucoup à ne pas répéter le pattern parce que tu sais, ma liste de 21 défauts de caractère, là,
mm-hmm.
je ne l'ai pas collé dans mon esprit 24 heures sur 24 en train de me voir non. aller tout le temps. Fait que si je ne m'assois jamais à ma table à devoir pour faire mon nettoyage intérieur, ouais. là, ben, j'y pense pas aux erreurs que j'ai faites, puis okay. j'ai beaucoup moins le pouvoir d'agir puis de réparer. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ben, ça permet de mettre encore une fois ton cœur de l'avant, de devenir une meilleure personne. Dans les perceptions des autres, c'est intéressant de voir qu'ils ont des amis qui sont capables de faire cette démarche-là. Puis après ça, ben moi, c'est un muscle, hein? C'est comme à l'entraînement. Plus mm-hmm. tu le fais à un moment donné, puis que tu réalises qu'il y a de l'impatience, t'en fais ta barouette, ben à un moment donné, là, celle-là, tu l'as un petit peu plus à la vigilance, puis à tous les jours, tu commences à en faire de moins en moins, puis là, ça se transforme. T'sais.
Oui, parce que là, ça, c'est une autre affaire qui est importante peut-être de retenir. Il ne faut pas attendre que ça fasse souffrir quelqu'un ou se faire souffrir soi-même. Quand tu as décelé, comme tu dis, l'erreur, mm-hmm. je pense que c'est important de tout de suite aller. L'attaquer de front, puis l'attaquer à la base pour que, comme tu viens de dire, mettons l'impatience. C'est un très bon exemple. L'impatience, c'est un défaut ou une erreur que beaucoup de gens font, on va se le dire. C'est important, je pense, de ne pas se rendre au bout de l'impatience pour que ça crée une discorde, que ça crée une chicane, que ça crée un malaise et arrêter tout de suite. T'sais, on voit que... OK, non, j'arrête là. Qu'est-ce qui fait ça? Là, c'est facile. Toi, Joe, tu es un être, on le sait, les auditeurs le savent, je le sais, tu es un être spirituel ailleurs.
Je suis passionné, puis ça me rend heureux de faire cette démarche-là.
Oui.
Mais je suis conscient que c'est pas tout le monde. Moi, je rencontre tellement de monde qui vont juste dire, ben moi, je suis impatient, c'est comme ça.
Ouais.
Puis eux autres, ben, ils vont continuer de causer du tort à cause de leur impatience à plein de monde autour, tu sais, puis qui même me suivent, sinon décroche, tu sais.
Question d'égo, ça, ou...
Mais c'est une façon de voir les choses aussi, hein. C'est pas tout le monde qui a à cœur d'être dans sa forme la plus bienveillante pour soi et pour les autres. Puis si pour eux autres, ça les fait pas assez souffrir de dire « je suis impatient, c'est de même », puis ils ont pas le goût de changer... Ils n'ont pas le goût de changer. Moi, je suis qui pour juger ça puis dire que c'est pas correct? Si à l'instant présent, c'est correct pour eux, c'est correct. Mais ça se peut qu'on les revoie dans un mois, qu'ils pensent de la même façon. Ça se peut qu'on les revoie dans 2 ans puis qu'ils aient complètement changé aussi.
Ouais.
Tu sais, la vie, c'est la vie. Puis à un moment donné, ben, on rencontre nos défis puis on décide de rester comme on est ou de changer aussi. Tu sais. Mais Moi, je suis juste là pour partager l'expérience que je me fais vivre, que je trouve vraiment agréable. Après ça, est-ce que tout le monde doit marcher sur ces traces-là?
Non.
Absolument pas.
Parce que
peut-être que pour l'instant, c'est beaucoup plus bienveillant pour soi d'accepter qu'on est ce qu'on est que de vouloir se changer, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire des changements sans jugement. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont dire là, faut que je change, puis ça va être dur, puis ils vont se taper sa tête, puis ils vont juger, puis ils vont tout le temps dire à tous les jours, ben c'est ça, je suis pas correct, je suis impatient, je suis égocentrique, je suis égoïste.
Je suis pas bon,
Oui, puis de faire un programme comme ça va être dévalorisant pour eux, puis ils vont perdre leur estime de soi au complet. Écoute, je te recommande pas de faire ça. T'es mieux d'accepter que t'es impatient pour l'instant, puis c'est comme ça.
oui.
Mais si à un moment donné, dans l'humilité, tu te dis, non, par amour de soi, je vais reconnaître des défauts, parce que je suis capable de reconnaître autant mes qualités aussi, je vais marcher ce chemin-là, puis je vais donner une personne meilleure. Ça me motive de faire ça, que tu le fais dans un respect, un amour de soi et un amour des autres, sans te juger, sans te taper sa tête, dans l'accueil, la totale acceptation. Si tu arrives à faire ça, là, peut-être tu vas commencer à aimer plus faire le changement que de dire, moi, je suis comme ça, je ne peux pas changer.
Tout à fait d'accord. Tu me dis, là, je ne veux pas que tu embarques dans les détails ou dans le personnel si tu ne veux pas. Tu me dis que tu fais des erreurs tous les jours, puis tu vas en faire demain. C'est quel genre d'erreurs tu parles? C'est des erreurs qui sont plus d'ordre physique, des erreurs à ta job, des erreurs... Parce que pour te savoir que tu fais des erreurs tous les jours, je comprends, on en fait toutes, parce qu'effectivement, la seule personne, comme j'ai dit tantôt, la seule personne qui ne fait pas d'erreur, c'est la personne qui fait rien. Se tromper, on a le droit. Briser quelque chose, on a le droit. Façon de parler, c'est pas obligatoire de briser quelque chose, mais tu travailles avec quelque chose, tu le brises, bon, c'est des choses qui arrivent. Si tu ne veux pas faire ça, c'est faut que tu restes chez vous à ne rien faire. Puis même là, je pense que ça peut créer des erreurs quand même, mais bref. C'est quel genre d'erreur que tu parles? Quand tu parles que tu en fais tous les jours? Tu
as raison de le dire, parce que moi, dans mon programme d'hygiène émotionnelle, rien faire, ça peut devenir un défaut de caractère aussi.
Oui.
Fait que...
tu peux créer beaucoup de tort à ne rien faire quand tu casses rien physiquement. Mais tu peux créer beaucoup de tort à rien faire. Là.
Ben oui, si ma famille a une grosse charge mentale, puis moi, je continue de rien faire puis de ne pas les aider, ça va leur causer du tort. Puis ça, pour moi, ça va faire mal à une de mes valeurs, qui est de vouloir que ma famille soit heureuse.
Bienveillance, hein?
Puis là, je vais commencer à voir que c'est peut-être une erreur de ma part de rien faire, tu sais.
De rester
passif. Mais tu sais, les plus grands philosophes, là, il y en a beaucoup qui sont arrivés à dire que finalement, la vie, c'est absurde, tu sais, qu'elle n'a pas nécessairement de sens. Tu sais. L'être humain veut bien y donner un sens. Puis moi, pour être heureux, j'ai décidé d'y donner un sens. J'ai pas décidé de croire que c'était absurde. Tu sais. Au contraire, ça, c'est une philosophie. Hein. Tu choisis, c'est toi qui décides, t'es maître de ta vie. Puis moi, le sens que j'y ai donné, c'est vraiment d'ajouter de la valeur à mes relations. Fait que moi, quand je vais penser que je fais des erreurs, c'est toujours en lien avec une relation. Relation avec mon corps, relation avec ma famille, mes amis, relation avec les gens qui m'entourent, relation avec la nature. Tout ce avec quoi Jonathan est en relation, il peut faire du bien ou causer du tort. C'est là où je vais prendre conscience que je cause du tort, que je vais mettre une étiquette d'erreur. Mais quelqu'un qui n'a pas cette philosophie-là, il va dire... Il ne va pas mettre l'étiquette d'erreur, tu sais. Il va peut-être même dire qu'est-ce qu'une erreur. C'est vraiment un concept humain de dire ça, c'est une erreur. C'est comme les philosophes vont dire le bien, le mal n'existe pas. Mais moi, je choisis que ça existe parce que ça donne du sens à ma vie puis ça me fait du bien de déterminer le chemin que je veux marcher, tu sais. Mais ce qui est bien pour moi est peut-être mal pour l'autre et vice-versa. Fait que la notion d'erreur, c'est un petit peu le même concept, hein. C'est très subjectif, en fait.
Mais oui, puis
ce qui me concerne, c'est vraiment relationnel. C'est là-dessus que je vais me baser parce que le sens que je donne à ma vie, c'est avoir une qualité relationnelle avec toute chose, tout être vivant. Fait que c'est sûr que là où je vais mettre l'étiquette de l'erreur, c'est là où je suis insatisfait de la relation que j'entretiens avec chaque être ou chaque chose.
Puis je pense que c'est important aussi de dire que de ne pas mettre le côté péjoratif à une erreur. Dans le sens, le monde va souvent... rattacher erreur avec négatif, avec j'aurais pas dû, avec. Je pense que c'est important aussi de peut-être détacher les deux, de faire un genre de ligne entre erreur et négatif. J'explique. L'erreur que tu as faite là, Peut-être que oui, là, elle a fait mal, mais si tu ne l'avais pas fait, cette erreur-là, tu n'aurais pas pris conscience de... Tu sais, on parle d'une boîte de Pandore. Hein. Des fois, tu ouvres la boîte de Pandore, il y a plein d'autres choses. Est-ce que je me trompe quand je dis qu'une erreur n'est pas nécessairement péjorative, que ça peut être, au contraire, une bonne chose d'avoir fait l'erreur?
Ben oui, ça va être... ça va tellement, dans le fond, ça va tellement bien résonner à l'intérieur de celui qui a l'humilité d'admettre et de comprendre qu'il va toujours faire des erreurs et que c'est la meilleure route pour avancer dans la vie.
Ben oui, mais, de toujours faire des erreurs. On s'entend pas toujours la même, mais toujours en faire des... Oui, c'est ça.
Mais si tu bénéficies du résultat positif suite à l'erreur, parce que tu es proactif dans l'erreur puis tu te prends en main, tu vas commencer à encoder l'erreur comme un bon véhicule d'évolution et d'épanouissement.
Okay.
Mais si suite à ton erreur, tu ne fais jamais rien, tu te tapes ça à la tête puis tu te mets en petite boule, là, tu vas encoder que de vivre des erreurs, il n'y a rien de plus souffrant que ça. Puis il y en a, c'est ça. Ils sont incapables de faire des erreurs. C'est tellement souffrant, ils se mettent en colère, ils détruisent leur vie au complet.
Ouais.
Souvent, ils ont des défauts de caractère liés au perfectionnisme, ces gens-là. Ils ne sont pas capables de faire des erreurs. Mais là, tu vois, tu n'as pas encodé que l'erreur est une bonne voie pour le succès, l'épanouissement. Mais tu vois, ça me fait penser au livre de Charles Pépin, qui a écrit « Les vertus de l'échec ». Puis il parle des grands joueurs de tennis au début de son livre, lui, là-dedans, comme Raphaël Nadal. Puis il dit c'est drôle parce qu'il a étudié des joueurs de tennis dans le junior qui rinçaient la ligue, qui sont jamais devenus des pros, des numéros un au niveau pro. Puis il a étudié des Raphaël Nadal qui bûchaient au niveau junior, qui sont devenus numéro un pro. Oui. Puis les vertus de l'échec, c'est ça. C'est Raphaël qui a vécu beaucoup l'échec, qui a fait plein d'erreurs, a toujours bien évolué à se rendre numéro un dans son domaine, alors que ceux qui n'en ont pas vécu assez junior, ils ont plafonné puis ils ne sont jamais devenus numéro un dans leur domaine. Alors, Raphaël, je pense qu'il carburait à l'échec et à l'erreur pour ça, pour s'épanouir.
Ça, oui, puis j'aime ça. Beaucoup de personnalités connues ont drive. Étaient motivés par l'erreur. On peut en nommer des milliers. Ben des milliers. On pourrait, mais on aurait beaucoup trop de temps à perdre avec ça. Mais tu sais, moi, autant que toi, deux amateurs de basketball, Michael Jordan en est un, que c'était pas nécessairement un talent inné qu'il y avait. Est-ce que le gars était plus talentueux que toi puis moi au basket? Fort probablement. Mais est-ce que c'était...
courage et l'effort d'y faire face puis de le surmonter.
Ben oui, oui.
C'est son deuxième talent aussi. T'sais.
Oui, puis combien de fois qu'il a expliqué, ouais. Le nombre de lancers francs qu'il a raté, le nombre de shots importants qu'il a raté, le nombre de passes qu'il aurait dû faire. Puis tu sais, il avait dit à un moment donné, lui puis Kobe Bryant l'a recité plus tard, l'acronyme de FAIL, qui est First Attempt in Learning, vient un petit peu de ça. Tu sais, moi, j'ai toujours bien aimé ça quand j'avais vu ça, que fail, c'est une chose, tu parlais d'échec tantôt, l'échec n'est pas nécessairement péjoratif. L'échec est la première attempt, la première essai à apprendre. Tu sais, le premier pas vers apprendre de quelque chose de nouveau. Là.
Peut-être que tu l'as la réponse. C'est le regard devient positif sur l'erreur à condition qu'il soit suivi d'un apprentissage. Mais pour arriver à ça, il faut donner le sens à sa vie que d'apprendre, c'est le véhicule de l'épanouissement. Ouais. Celui qui n'en a rien à cirer d'apprendre, ben, il ne va pas juxtaposer apprentissage à erreur, puis faire des erreurs, ça ne fera pas partie de son chemin de l'épanouissement.
Puis comment tu deals avec... On ne parle pas d'erreur monumentale, on ne parle pas de te briser le cœur à Catherine, on parle pas de... On parle des petites erreurs. Comment tu délais ça, toi, personnellement, Joe Riopelle? Est-ce que tu, tout de suite, cernes le problème à la base? Est-ce que tu le laisses aller? Est-ce que ça dépend aussi d'une question d'amplitude d'erreur? Comment tu délais avec une erreur? Comment tu fais pour faire celle-là, je la laisse aller parce que je sais que c'est un one-shot deal? On va appeler ça de même. Tu as fait un coup, c'est comme ça, c'est pas moi. Je n'ai pas à mettre d'énergie là-dedans. Ça n'arrivera plus. C'est pas moi. Tu la laisses aller. Versus l'autre, tu fais comme tu parlais tantôt de la patience. Je sais que ce n'est pas tant nécessairement ton cas, mais tu sais, la personne qui sait que c'est un trait de caractère, que la patience, ils n'en ont juste pas. Quel est le truc pour se dire, ça, je laisse aller, ça, je m'attarde à ça?
Moi, j'en fais plus d'erreurs, Sébastien. Là. Je peux pas répondre à ta question.
Dis le gars qu'il y a genre 20 minutes, il a dit j'en fais tous les jours.
Ouais, c'est ça, c'est une façon de me défiler pour pas y répondre, tu sais.
Non, c'est ça, hein?
Mais écoute, il va falloir que tu me ramènes un petit peu à ta question parce qu'elle peut être très profonde, puis je sais pas si je vais y répondre comme tu l'entends. Mais
qu'est-ce qui fait que tu laisses aller une erreur ou que tu t'y attardes?
Ouais. Ben, c'est simplement si je vois que t'y attarder, ça peut avoir un bénéfice à long terme pour moi puis pour les gens impliqués.
OK. Parce que la laisser aller, comme je dis, c'est juste de quoi tu sais guetter.
Mais la laisser aller, c'est pas tant une option pour moi parce que si je laisse aller, ça va se répéter, tu sais. Puis,
OK. Même si tu sais que c'est anodin, si tu laisses aller, ça peut tomber dans l'ordre.
Ben, c'est sûr que j'ai une capacité à traiter des dossiers dans ma tête. Fait que si je n'ai déjà plein la tête, les petits, je vais les laisser aller, c'est sûr. Tu sais.
Okay.
Mais,
ouais, ça, c'est un genre de tri. Mais,
ouais, c'est ça. Mais dans l'instant présent, si j'ai la capacité de le prendre, je vais le prendre parce que je sais que ça me rend heureux de le traiter, ce dossier-là. Puis ça va me rendre coupable puis générer de la honte à long terme si je ne le traite pas, le dossier, puis si je l'évite ou si je le fuis ou si tu veux. Tu sais. Mais c'est ça, il faut quand même que j'aille la prise de conscience que c'est une erreur. Si je la vois pas, je la vois pas, je la traite pas, tu sais. Étant donné que je suis dans ce domaine-là depuis longtemps, ça va vite en titi trouver des solutions quand il y a des erreurs dans ma tête. Puis je réalise que... Ouais, puis plus l'être humain évolue, plus les examens changent. Parce que je travaillais plus jeune, je travaille d'autres choses aujourd'hui. Parce que je travaille aujourd'hui, je ne travaillerai pas plus tard, mais plus tard, avoir d'autres choses. Tu sais. Il y a un prof à l'école au CQPNL, Paul, je pense à lui, il est décédé à l'âge de 65 ans, je pense, soixantaine, mais je trouvais fabuleux. Puis il disait, il voyait que j'étais curieux, tu sais, par la vie, les grandes questions. Puis à un moment donné, j'étais arrivé à l'école, puis ça faisait longtemps qu'on étudiait. Puis je dis, Paul, j'ai le sentiment que je sais tout, là, tu sais, que j'ai tout compris.
T'avais quel âge à ce moment-là, mettons?
23 ans, à peu près.
OK.
Tu sais, puis je disais, hey, ici, là, c'est comme non-stop. À tous les jours, on se pose des grosses questions, on cherche, on trouve des réponses, tu sais. Puis là, vers la fin de l'année, je me disais, moi, mais j'ai comme répondu à toutes mes questions. Je sens comme c'est un nuage. Tout est clair, tu sais. Oui, puis de toute sa sagesse, il m'avait dit, ben, tu vas voir, quand tu auras trouvé toutes les réponses aux questions de la vie va changer les questions. Puis là, tu vas avoir plein d'autres réponses à trouver. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Plus tu prends de la maturité, plus tes questionnements sont différents, plus c'est d'autres choses. T'sais.
Oui, puis ça, j'adore ça, parce que comme tu dis, jamais que tu as fait le tour des questions. Mm-hmm. On avait déjà parlé depuis moi, Joe, tous les jours de nos vies, on est nouveau à quelque chose de nouveau. Ça fait beaucoup de nouveau, mais tu comprends? Chaque journée, comme on dit, on est papa tous les deux du petit Théo, du petit Nolan. À tous les jours, c'est la première fois qu'on était papa le jour qu'ils sont nés. Après ça, c'était la première fois que moi, j'ai vécu la garderie en novembre. C'est la première fois que j'étais un papa qui allait porter son petit garçon à la garderie. C'était la première fois que... Tu sais, on vit tout le temps les enfants. Fait automatiquement, les questions se redéfinissent avec le temps. Donc, certaines erreurs peuvent être qu'on a déjà faites sous une autre facette, peuvent être refaites, mais avec une nouvelle, pas une nouvelle vocation, qu'on pourrait dire, mais tu sais, c'est nouveau parce que, comme tu dis, tu penses avoir fait le tour de la vie à 23 ans, puis finalement, tu te rends compte que non, il y a d'autres choses qui vont s'attaquer à moi, quelque chose que, ou encore là, une erreur que j'ai faite. Puis j'aime ça comment tu dis. Moi, tantôt, j'ai fait de la gaffe de dire est-ce que tu le laisses aller? C'est comme, mais non, si je le laisse aller, c'est là que je vais la répéter parce que ça m'ouvre les yeux sur une chose que peut-être j'ai. Pas le défaut. Je ne veux pas dire le défaut parce que c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est des fois pour se donner des outils, des opinions. J'ai cette fâcheuse habitude-là, on va dire ça de même, de si j'ai une petite erreur que, à mes yeux, est anodine, que je la. Moi, c'est ça, c'était ma façon de faire. Puis ça va l'être peut-être encore, parce que je ne fais pas le switch du jour au lendemain, mais tu comprends? J'avais tendance à laisser aller, tout simplement. Mais là, on dirait que tu m'ouvres les yeux que cette erreur-là que j'ai faite, admettons, à 35 ans ou à 30 ans ou à 23, a eu un impact là, puis que je pense que j'ai résolu le problème, donc on met ça de côté. Mais 10 ans plus tard, un autre problème, une autre situation, pas nécessairement un problème, une autre situation peut se présenter à moi. Puis là, ce trait-là que j'avais...
Il va ressortir.
Ouais, puis c'est là peut-être de ne pas l'oublier, comme tu dis, de ne pas le mettre de côté, mais bien de le comprendre, de l'intégrer comme il faut pour pouvoir ne pas le répéter. Fait qu'à ce moment-là, quand l'erreur est sur le point de se réaliser encore, fait comme, ouais, non, c'était pas ça, mais je me rappelle qu'est-ce que ça avait créé à ce moment-là, je ne recommencerai pas.
Ouais, tu vois, je vais donner un exemple, OK? Quand, plus jeune, j'avais une vie un peu plus souffrante qu'aujourd'hui, disons. Ouais. Fait que mon leitmotiv à l'époque, c'était vraiment de trouver des solutions à mes souffrances. Ouais, ouais. J'étais beaucoup en mode solution. Fait que c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ça va vite dans ma tête trouver des solutions. Moi, si je vivais la vie toute seule, là, je te réglerais toutes les affaires. Là, tau, 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 tau. Mais là, je réalise que je vis en famille, en société. Et que...
Ouais, t'es pas tout seul. Là.
C'est ça. Puis le besoin des gens autour de moi, des fois, c'est pas de trouver une solution. Tu sais, eux autres, ils ont peut-être d'autres besoins que moi, j'ai pas, ou qui sont différents, ou qui s'intègrent, comme tu dis, à une vitesse différente de la mienne. Fait que tu vois, là où des fois, je trouve que je fais une erreur en causant du tort à d'autres, c'est de rester dans mon modèle du monde à moi, puis de dire, il y a un problème, ça prend une solution, alors que l'autre personne, elle, il y a un problème, elle veut juste être écoutée ou communiquer, mais elle cherche pas de solution. Puis tu vois, ça, c'est un exemple quotidien là, que je peux vivre des fois, de dire, écoute, Jonathan, c'est une forme d'impatience ça, dans ton programme d'hygiène émotionnelle, de dire, toi, tu es impatient de trouver une solution puis de passer à d'autres choses, mais l'autre, elle veut le vivre, son truc, tu sais.
Son deuil à vivre. Quand je dis son deuil, c'est pas, je parle pas de deuil d'une personne, mais son deuil de la situation.
De la situation, exactement.
T'es-tu en train de noter que j'ai trop réagi vite quand que je voulais dire à Karine que son Gore-Tex n'était pas ce cap, là?
Exact.
Exact. Non, pour vous mettre en contexte, moi et Joe, ça fait une grosse heure avant le podcast qu'on jasait de tout et de rien. Puis maintenant, on se met à parler plein d'affaires. Puis on est tombé sur ce sujet-là. Puis moi, j'ai une fâcheuse habitude, on va appeler ça de même, de pas rien qui me dérange. Il n'y a jamais rien. Mon père m'a toujours dit, mon gars, il n'y a pas que ça dans la vie. Tout le temps, peu importe ce que je disais, ce que je vivais, puis 98,7% du temps, c'est que c'est vrai. On est qui pour juger? En ce moment, on parle de parler, je ne veux pas embarquer dans le sujet officiellement, mais c'est un petit peu ça. T'sais, on chiale du confinement, on chiale des... Il y a des places là, qui sont même pas capables de respirer. Il y a des places qui ne sont même pas capables de voir quelqu'un parce qu'ils ne peuvent juste pas. Il y a des places qu'ils n'ont même pas d'amis. Il y a des petites places... pas dans notre pays, mais en Afrique, peu importe. T'sais, nous autres, juste d'être vivants, sont contents. Nous autres, on a toutes les affaires quand on a Zoom, on a un bon café, on a la technologie, on a l'Internet, on a... puis on chiale pareil. Fait que moi, ce petit côté, il y a bien pire que mettre un masque, puis de ne pas voir nos amis pour l'instant, puis de passer Noël, que j'ai... Hey, il y a bien pire que ça. Fait que
mais c'est là où une qualité peut devenir un défaut.
Oui, ben oui.
C'est là où dédramatiser peut être une énorme qualité à ceux qui ont tendance à faire du grand théâtre. Là, on en connaît. mais pour des gens, des fois, assez réalistes, d'avoir quelqu'un qui dédramatise à côté, c'est comme si ça y enlève le droit de vivre sa réalité aussi. Fait que là, ça peut donner un défaut. Fait que c'est là où tout est subjectif, tout est relatif. Puis ma notion d'erreur n'est pas dans l'attitude ou dans le comportement, mais plutôt dans l'impact que ça a chez moi et versus les autres. Tu sais. Ouais. Et là qu'on est constamment en train de s'adapter à ça, ben moi, j'ai fait ce choix-là parce que le sens que je donne à ma vie, c'est d'être bien puis que les autres autour de moi soient bien. Tu sais.
Oui, puis je pense que c'est pas nécessaire de lever la main et de dire « Hey, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, je veux la corriger. » On est capable aussi de juste faire « Ok, je l'ai fait, je vais juste faire attention. » Par rapport à ça, c'est pas de trouver le flag, de trouver le comment, du pourquoi tout le temps, parce que je pense pas, corrige-moi si je me trompe, je pense pas qu'on est obligé de prendre une erreur puis de la décortiquer de fond en comble à savoir qu'est-ce que créer ça, pourquoi ça a été créé. Puis, tu sais, s'il y a quelqu'un qui pense beaucoup trop dans sa tête, c'est bien moi, c'est bien toi. On est deux personnes qui sont très intellectuellement actifs, on va dire ça de même. C'est pas nécessaire de toujours... Je pense que des fois, juste la réaction que ça crée peut être assez pour faire comme « OK, ouais, je le fais plus. » Pourquoi? Ouais, mais j'avais raison. Ouais, mais c'est peut-être, tantôt quand on parlait d'ego et d'orgueil, c'est peut-être là que ça embarque. Parce que là, des fois, je suis comme « Ouais, elle a réagi de même, mais j'ai quand même raison. » Parce que, je pense que c'est là que c'est important de, des fois, mettre ça complètement. C'est une erreur, tout simplement. On pense à autre chose. J'assume mon tort. t'assumes le tien. On a chacun notre... Parce qu'encore là, il y a tout le temps trois versions à une histoire. Non deux, mais bien trois. Fait que tu sais, chacun va le... Comme tu disais tantôt, chacun va le voir différemment. Fait, c'est peut-être bien aussi, des fois, de ne pas essayer d'analyser en fond et en comble d'où vient l'erreur, qui a créé l'erreur, pourquoi l'erreur a été causée. Et plus il y a l'erreur d'arriver, on va tout de suite tomber en mode solution. On passe à autre chose. T'sais, je pense que des fois, c'est pas mieux d'aller fouiller puis d'aller déterrer une erreur.
C'est ça, mais ça dépend du besoin de la personne.
Oui, moi, oui, oui.
Moi, je sais que pelleter de la merde, c'est plus ma source de motivation, là, mais il y en a que oui. Fait que moi, par bienveillance, si l'autre pense qu'elle va être bien comme ça, je peux l'accompagner à pelleter de la merde pendant 5 minutes au service de l'autre. Moi, ça me rend heureux d'être au service de l'autre à cette heure dans ma vie. Avant, okay. Ça m'aurait fait chier. Maintenant, ça fait partie de moi. Il y a un personnage intérieur en dedans de moi qui s'appelle Mère Teresa qui a tellement de fun à être comme ça. Mais si à un moment donné, je vois qu'à force de pelleter de la merde, l'autre est en train de s'autodétruire, ça sera mon rôle aussi de dire peut-être qu'on peut commencer à pelleter des nuages aussi. Ça serait ouais. plus agréable. Mais moi, j'ai appris à l'école que de se synchroniser avec l'autre, c'est la meilleure façon après ça d'amener l'autre ailleurs. Ouais. Mais si tu y rentres d'en face sans te synchroniser, ça se peut que l'autre il dise « Crisse-moi la paix, je veux rien. »
Ça va lui faire peur, c'est ça. Tu t'appartais, ouais. Il va voir ça comme de l'affront, il va voir ça comme...
C'est ça, exactement. Fait que moi, ça fait qu'aujourd'hui, j'arrive dans ma vie au lieu d'être... je suis bon à trouver des solutions. Fait que là, j'essaie... L'objectif que je me donne, c'est d'être bon à pas en trouver puis à me demander comment je peux aider l'autre à répondre à son besoin. Fait que là, j'essaie de développer davantage la qualité. Puis je trouve ça dur. Ma blonde, elle te dirait que je suis pas bon là, à faire ça. la capacité à ne pas confronter l'autre, à aller dans le même sens que l'autre, à l'appuyer, ouais. à l'encourager, à rien dire, à acquiescer. Parce que je réalise, puis là, je parle de ma relation de couple, je réalise que ma blonde, elle, c'est de cette notion de support-là qu'elle a besoin, pas mal plus que la notion de coaching que je suis très bon à le faire. Puis pourtant, quand ma blonde est très vulnérable, je l'adore, puis je lui rends hommage encore une fois parce qu'elle va se tourner vers moi pour me demander ce que j'en pense. Puis là, je sens qu'elle me donne le droit d'être plus en mode coach, consultant, tu sais.
Oui, puis là, elle laisse tomber son ego, son orgueil, puis elle va chercher de l'aide, justement.
Ouais, exact. Sauf qu'aussitôt que moi, j'ai un petit peu d'ego, puis qu'elle en a un petit peu aussi. Là, moi, j'ai goût d'être un coach, puis elle me donne pas le droit. C'est là que là, je suis comme, OK, Jonathan, arrête, là, tu sais. C'est juste. C'est quoi qu'elle veut, ta blonde? Ouais. Elle veut que tu l'écoutes, nanana. Ouais. Puis toi, là, t'es-tu attaché à ce point-là à être un coach que tu vas continuer d'être un coach, même si ta blonde a besoin d'être juste à t'écouter? Non. Ça serait ça la part d'ego. L'attachement à ce que je veux être au détriment de ce que l'autre aurait besoin que tu sois. Non. Fait que là, tu couches ton ego, puis par amour, tu dis « Ah, ma chérie, elle a juste besoin d'être écoutée. Je suis capable de l'écouter aussi. »
Elle sait qu'elle a fait l'erreur. Elle n'a pas besoin plus de se faire dire en pleine face. Catherine, tu sais qu'elle a juste besoin de, comme tu dis, de se confier. Faire comme « J'ai fait une erreur, j'ai besoin. » Et non. Ouais.
Mais ce qui est dur là-dedans, Sébastien, c'est que de mon point de vue, quand je suis en mode solution, je ne suis pas en train d'y mettre son erreur en pleine face, mais juste en train de vouloir l'aider à le comprendre et à devenir autonome dans trouver ses solutions et ses ressources. Mais des fois, elle ou moi, on est tellement blessé qu'on ne veut pas l'entendre, ça. Fait qu'on a l'impression que c'est une claque d'en face. Puis là, l'autre, il se débat à dire « Non, non, c'est pas une claque d'en face, je veux juste t'aider. »
C'est pire, ouais, c'est pire.
Moi, ça me donne vraiment l'effet d'une claque d'en face. Ouais, c'est même si toi, tu dis que je te claque pas d'en face. Fait que là, OK. Fait que là, dans le fond, moi, je m'obstine parce que je veux vraiment être dans mon ego d'aidant, là, mais elle n'a pas besoin d'être aidée. Ou les rôles peuvent être inversés. Ou moi, je n'ai pas besoin d'être aidée. Ce que je veux, c'est pelleter un peu de merde. Ça me fait du bien. Ça va me faire dépenser d'énergie. Après ça, ça va me calmer. Va peut-être pouvoir
trouver... On va se vider le sac, c'est ça. Là.
C'est ça. Fait que être au service de l'autre, c'est coucher son ego puis se demander quel rôle faut jouer pour répondre aux besoins de l'autre, tu sais. Puis, puis des fois, ce qui est dur, c'est que l'autre, il ne sait même pas c'est quoi son besoin. Fait que là, il va chialer, puis ça ne sera jamais correct, le rôle que tu vas jouer. Mais d'apprendre à développer la vertu que c'est correct que l'autre chiale, puis que ce n'est pas contre toi, puis que tu peux être dans la même pièce que l'autre, même si l'autre chiale, sans que ça change ton état d'esprit. Uh-huh. Moi, à un moment donné, mon père, il s'est, là, je change de voix, je ne sais pas si on a le temps, mais bref, je trouve que c'est une belle histoire. Oui, mon père se faisait opérer pour la maladie de Crohn. Il a eu une grosse infection. Il a passé 6 mois de sa vie sur un lit d'hôpital. Il a failli mourir. C'était vraiment pénible. Je me sentais vraiment impuissant parce que même les médecins ne pouvaient rien faire. Fait qu'imagine, moi, je ne suis pas médecin. Je ne veux absolument pas faire grand-chose. Puis à un moment donné, j'étais au restaurant avec mon ami Joe, puis je braillais, puis je disais à quel point je me sentais impuissant, puis mon père faisait pitié, puis j'avais de la peine, tu sais. Puis là, tu vois, Joe, il a peut-être senti que j'avais pas besoin de péter de la merde trop longtemps. Il est tombé tout de suite en mode solution avec moi, puis ça m'a vraiment fait du bien.
Okay.
Puis il m'a regardé, puis il m'a secoué, puis il a dit « Hey! » J'ai dit « Quoi? » Il dit, moi, quand j'ai eu mon accident d'auto, là, puis que les fémurs m'ont sorti des jambes, je suis resté longtemps, des mois à l'hôpital, tu sais. Puis il dit, chaque fois que quelqu'un rentrait dans ma chambre d'hôpital, l'air piteux, à me dire que je faisais pitié, triste, je le retournais chez eux. Il n'était pas question qu'il y ait quelqu'un qui ait une énergie de marde dans ma chambre d'hôpital, ça m'empêche de guérir plus vite.
Oui, ben oui.
Fait que là, il m'a regardé, puis il dit, toi, t'envoies de la pitié puis de la tristesse à ton père. C'est pas tout ça qu'il a besoin pour guérir. Aime-les, sois content, envoie-y de l'amour. Hey, wow. Ça m'a tellement saisi. Ça, c'est une claque d'en face que t'aimes des fois, là, ouais. Quand t'es prête à la recevoir. Puis c'est, t'as tellement raison. Hey, il m'a vraiment dit ce que j'avais besoin d'entendre à partir de ce moment-là. Je me mettais dans l'état d'esprit joyeux, positif. Je t'envoie des petits soldats de lumière pour guérir, tu sais, parce que je sais pas si ça va marcher, les soldats de lumière pour guérir, mais moi, là, dans mon impuissance, c'est tout ce que je peux faire. Fait que, tu sais, ça coûte rien moi le faire. Puis j'ai confiance en mon chum Joe. Il m'a dit que sur son lit d'hôpital, ça l'a aidé de faire des visualisations de guérison de même. Fait que, tu sais, moi, ça me coûte rien moi le faire pour mon père. Puis ça a complètement changé mon état d'esprit. Mais c'est... Tu sais, je raconte tout ça pour dire à un moment donné que il y a moyen de se fouetter sans se faire mal, puis ça se fait du bien à changer son état d'esprit en voulant être au service de l'autre. Puis je pense que ça s'appelle de l'ouverture à un moment donné, de dire je reste ouvert qu'il y a d'autres façons de fonctionner dans la vie que celle que je pense qui est bonne, qui est vraiment bonne aussi. Tu sais, puis c'est pas parce que les choses fonctionnent d'une façon pour moi qu'elles vont fonctionner pour les autres tout le temps de cette façon-là. Puis encore une fois, je vous ramène à l'humilité quand je parle. Avoir l'humilité qu'il n'y a pas juste un bon chemin. Avoir l'humilité que la personne ne veut pas nécessairement entendre ce qui marche pour toi. Avoir l'humilité de dire je me descends de sur moi, j'arrête d'être égocentrique, je me concentre sur c'est quoi que l'autre veut vraiment, tu sais. Mm-hmm. Puis même des fois, c'est pas, je l'ai dit tantôt, mais c'est pas clair pour l'autre ce que l'autre veut. Lui-même, il ne sait pas. Avoir la capacité de vivre dans l'inconfort un grand moment malgré tout, tu sais. Avoir la capacité d'entendre l'autre être en crise puis de ne pas prendre personnel puis d'aimer l'autre pareil. C'est tough en temps faire ça, tu sais. Moi, tu te mets en crise à côté de moi, je vais être tabarnak, j'endurerai pas ça. Elle m'a revenu, mais que ça soit fini, tu sais.
Ouais.
Ah oui, ça peut être une stratégie, tu sais. Peut-être que l'autre a besoin, à un moment donné, d'appui tellement là, que ce qu'il veut, c'est juste être en crise pendant que tu es là sans que toi, tu dises rien. Puis un jour, à 80, on va se bercer sur une chaise berçante puis on va se dire « Hey, tu sais, quand tu étais là, quand j'étais en crise, il n'y a rien de mieux que tu aurais pu faire. Ça m'a tellement fait du bien que tu sois capable d'être là puis que tu ne le prennes pas personnel. » Puis c'est ça, être plus grand que nature, des fois, c'est de dire « Ouais, je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas normalement pour essayer d'amener la relation à un autre niveau. » Puis le plus grand gagnant là-dedans, c'est tout le temps soi-même. Finalement, là, tu sais, on dit « On est au service de l'autre, là. » Mais ça fait une couple d'années que j'ai compris que c'est en étant au service de l'autre qu'on était au service d'un soi aussi qui s'épanouit en tabarouette, tu sais, à ne pas négliger.
Puis qu'est-ce qui a créé ça? C'est que tu as appris de tes erreurs. Pour faire un gros wrap-up de ça, c'est un petit peu ça. Tu sais, là, tu me parles de... Ben oui. Puis tu sais, là, tu me parles de certaines places parce que tu sais que je suis comme toi là-dessus, dans le sens que j'aime pas ça quand ça crie, j'aime pas ça quand ça bougonne. Mais tu sais, des fois, de rendre compte que comme tu dis, la personne avait besoin juste, elle ne voulait pas chialer pour être négative, elle voulait juste vider le sac, on va crever l'abcès, puis on passe à autre chose. Il y en a qui ont juste besoin de ça. Puis moi aussi, avec le temps, j'ai commencé, je parlais tantôt de l'histoire du Gore-Tex. C'est une longue histoire qui fait juste me faire comprendre que malheureusement, c'est pas vrai. J'ai cette habitude-là de souvent essayer de relativiser en disant hey, il paye que ça. Puis là, cette fois-là, ma blonde, en l'occurrence, avait juste besoin de chialer un peu, qu'elle avait fait Puis moi, je voulais dire d'autres choses, mais tu sais, ultimement, on a comme laissé les choses arriver par la fin de la soirée. On s'est même parlé, tu sais, moi, Karine, je voulais juste te dire ça. Tu vois, mais moi, je fait que c'est, j'adore ce que tu viens de dire. C'est exactement ce que j'ai vécu il y a une couple de semaines, dans le sens qu'elle avait juste besoin de... Tu sais, le Gore-Tex, il était pas scrap. Les capacités auraient été là pareil. Il était imperméable. Tu sais, il amenait tout. Mais elle avait besoin de chialer. Et puis, vois-tu, c'est la preuve que je dis qu'on en fait tout le temps des erreurs parce que là, à ce moment-là, elle avait juste besoin. Elle n'avait pas besoin du Sébastien qui va dire « Tout est beau, il y a plus que ça. » Elle avait juste besoin de chialer, de revenir d'aller chercher dans la garderie et de décompresser. Faire comme « Bon, là, je fais quoi? » Je sais, Karine, c'est une fille qui est très, très, très terre-à-terre quand elle veut, évidemment. Elle a un côté, puis elle teuse un nuage. Des fois, elle le sait. Mais en général, elle est très terre-à-terre. Je sais qu'elle serait revenue, ben, elle... mais sur le coup, elle n'avait pas besoin du Sébastien. Comme tu dis, tu es comme toi, le coach, là, elle n'avait pas besoin du Sébastien de « Il a payé que ça dans la vie, mon amour. » Elle n'avait ben, pas besoin. L'humilité ouais, fait que... Fait...
Ce que vous avez fait ensemble, ça fait partie du programme d'hygiène émotionnelle que j'ai appris. C'est-à-dire, sur le coup, on répond à nos besoins plutôt peut-être que de trouver des solutions. Ouais. Mais ça fait partie du programme de s'asseoir ensemble 15 minutes à tous les soirs pour revenir sur la journée. Puis c'est fou comment les discussions sont plus paisibles quand on fait un retour le soir parce qu'il y a du détachement, il y a de l'eau qui a coulé sur le pont, il y a de la maturité, il y a moins d'ego. Puis quand les deux sont au courant que c'est dans notre discipline quotidienne de se parler le soir... C'est hot parce que là, on se prépare à ça, on le sait qu'on va en reparler plus tard.
Tu peux pas l'éviter, là.
Non, puis on le sait que ça va faire du bien, tu sais, on a hâte ouais. À ce moment-là. Fait que ça nous permet pendant la journée de lâcher prise sur les prises de bec spontanées, là, puis réflexes, de se crisser à paix pendant la journée quand ça se passe, de faire nos affaires, nos programmes, de reconnaître nos torts dans la situation personnellement, sans le pitcher à l'autre, tu sais. De dire là, je peux-tu faire quelque chose tout de suite pour toi, vice-versa? Ouais, non, ouais. Tu peux rien faire, parfait, tu peux rien faire, go. Puis après ça, de revenir en douceur le soir. Puis si on fait ce nettoyage-là à tous les jours, ça va aller vite, là, qu'on le sait que dans nos défauts, mettons, on a l'impatience, l'intolérance ou l'isolement ou l'égoïsme, il y en a plein. Ça fait qu'on va être aware de ça. Puis très rapidement, va arriver le soir dans nos discussions où on n'aura plus besoin de dire « Hey, j'ai remarqué aujourd'hui, j'étais vraiment égoïste. Mm-hmm. » Mais non, parce que là, tu vas avoir fait attention à ça toute la journée. Fait que le soir, si tu dis « Gars, moi, ça a été vraiment une belle journée aujourd'hui, toi. » Puis là, l'autre dit « Ça a vraiment été une belle journée aussi. » On n'est pas obligé de faire du nettoyage émotionnel. On peut juste dire « Gars, ça a pas bien été. » On va juste partager nos gratitudes. Moi, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Toi, moi, c'était un moment-là. Puis la discussion du soir, ça va être ça. Puis ça va juste être une belle discussion d'amour. Mais tu sais, de dire, waouh, on est capable de se donner rendez-vous à tous les soirs pour parler quand ça va pas, mais pour parler aussi quand ça va, ça sécurise l'autre. Tu sais, là, je parle surtout pour les couples. Là. C'est sécurisant de savoir que l'autre, il était dans ce mindset-là aujourd'hui. C'est sécurisant de savoir que l'autre a encore envie de te parler, d'être transparent autant quand ça va pas que quand ça va. Puis on ne se le cachera pas, là. On parle que l'amour, il n'y a rien de plus important, là. Mais je suis vraiment en train de prendre conscience que l'amour est impossible s'il n'y a pas une base de sécurité, d'abord et avant tout.
Mais oui.
Il faut se sécuriser entre nous, là. C'est super important. Alors moi, je ne suis pas sécurisant. Ben là, ça revient à, comme je disais tantôt. Il y en a que c'est mieux pour eux de dire « Moi, je suis de même, tu sais. »
Oh oui,
je te souhaite qu'un jour, tu deviennes sécurisant. Tu vas voir l'abondance de bonheur qui va revenir vers toi si tu commences à développer ça. C'est fou. Tu sais, fait que ces petites discussions-là du soir, ça permet à tout le monde d'être en confiance. Ça permet à tout le monde de se sentir en sécurité. Puis dans la sécurité, la petite magie de la vie qui opère, hop, on retombe amoureux et ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis on dirait un petit papillon comme quand c'était la première année, tu sais. Hey, c'est intéressant de vivre ça après 10 ans de relation.
Ben oui.
Il y en a combien qui disent, ben, au fil du temps, l'amour, c'est plus ce que c'était, nanana. Tu sais, mets de la sécurité dans ton couple, un programme d'hygiène émotionnelle, discute un peu avec l'autre à tous les soirs. Peut-être que tu vas ressentir des petits fiumes de ce que c'était au début. Tu sais, laisse-toi surprendre. Ça, c'est intéressant aussi.
Puis, petite mini-parenthèse, tu dis, beaucoup de gens avec le temps, effectivement, « Oh, l'amour, c'est plus ce que c'était. » Veux-tu le plus bel exemple d'amour passionnel que j'ai jamais connu? Puis, Joe, tu l'as connu malgré toi. Puis c'est la raison pour laquelle toi et moi, on est si proches maintenant, mon père et ma marraine. je pense, je suis convaincu, Joe, que tu l'as ressenti quand tu as parlé à mon parrain, que tu lui as demandé de parler de sa maman.
Ah, ils étaient tellement amoureux, eux autres, puis ils avaient quoi, fou. 80,
90 ans? Ouais, mais à ce moment-là, ma marraine venait d'avoir 80, elle allait avoir 81, mon parrain 84 à ce moment-là. Ouais. Écoute, Joe, c'était des gens qui étaient...
Ah, ils étaient amoureux, eux autres, hein?
Ah, oh, écoute, lui, sa minoune, c'était donc ben la plus belle, la plus fine, la plus drôle, puis encore à la fin, là, je te dis, Joe, à la fin, tu les voyais ensemble, puis lui, ah, oh, moi, si ma minoune n'est plus là, je ne serais pas rien, puis ah, oh, mon Dieu, que, à tous les fois, j'étais comme... Tu sais, ceux qui me disent l'amour véritable n'existe pas, j'étais comme non, vous les avez juste pas vus. Et ça faisait quoi? T'as au moins 60 ans. Oui, ils avaient fêté leur 60e anniversaire de mariage. C'est 62, 63, 62, je peux pas dire exactement, mais tu sais, puis ils étaient amoureux. Puis ma marraine, une comme pas une, était comme, mais voyons donc, il est-tu fou? Puis elle le prenait pas pour acquis de. Le bon, on s'éloigne, mais ça reste quand même ça. Elle ne prenait pas pour acquis de « Ah oh non, anyway, papa, il ne faut rien si je ne suis pas là. » Non, non, elle est ben, fou, elle est donc. C'était un cas de toute c'est beauté. Beau. Ouais.
Bref. J'aurais envie de t'entendre en guise de conclusion sur la notion d'erreur. Avec quoi tu as le goût de terminer ça?
Je pense que c'est important d'en faire. C'est important d'en faire parce que on ne parle pas de graves erreurs. Comme je dis depuis tantôt, je ne parle pas là, de faire une erreur, d'un vol de banque, de faire un meurtre, de faire un accident grave qui a coûté la vie à des gens. Ce n'est pas ce genre d'erreur-là
qu'on parle. J'ai envie de dire, on est tellement imparfait qu'on n'a pas besoin de se forcer. C'est sûr qu'on va en faire.
Oui, oui. Puis ça fait aussi partie, quand on parlait tantôt de deuil, d'humilité, d'orgueil, c'est tout ça. Il faut arrêter de se dire qu'on est parfait, qu'on ne fera pas d'erreur. Je pense que c'est le pire moyen de faire une erreur quand tu commences à prendre pour acquis quoi que ce soit. En guise de conclusion, c'est faites-en des erreurs, mais apprenez. Gardez l'œil ouvert à ça. Parlez-en. Abandonnez-vous peut-être à vos erreurs. Quand on s'abandonne à nos erreurs puis qu'on l'assume, ouais, c'est beaucoup plus facile.
Ça met l'orgueil de côté.
Ben oui. Toi, Joe?
Ce que j'aime le plus de notre podcast, c'est que tous ceux qui vont l'écouter jusqu'à la fin, je suis sûr qu'ils vont avoir un sentiment déculpabilisant à l'égard de toutes les erreurs qu'ils ont faites dans leur vie.
Et qu'ils vont faire.
Qu'aujourd'hui, la prochaine erreur qu'ils vont faire, ils vont se sentir bien moins mal d'avoir fait une erreur. Très content d'avoir fait ça avec toi aujourd'hui, Sébastien.
Joe, les gens veulent te rejoindre. Comment ils se prennent?
Tu m'envoies un pigeon voyageur au 46 rue Montréal. Vous savez, je retourne à l'université la semaine prochaine à temps plein. Ça va être difficile pour moi d'avoir des relations directes avec les gens hein, de moins en moins. C'est pour ça que j'ai mis sur pied un programme en ligne. Au moins, là, il y a beaucoup de contenu riche. Il y a le www.liberta-coaching.com dans l'onglet. C'est encore écrit onglet socio-financement, mais en fait, vous pouvez acheter le programme en ligne pour cheminer. Commencez à me connaître si vous m'entendez un petit peu. Là, vous cheminez à travers les valeurs que je propose continuellement de qualité de vie, de sérénité, de bien-être avec soi, avec les autres, mais aussi d'atteinte d'objectifs, autant pour la vie personnelle que professionnelle. Mais sinon, via Facebook et Messenger, si vous avez des petites questions, des petits messages, là, c'est toujours un plaisir de recevoir et de répondre.
Joe, c'est toujours un plaisir de se parler. Comme tu dis, on s'est parlé une grosse heure avant le podcast. Merci d'embarquer dans mes folies. Merci d'embarquer dans mon cheminement personnel parce que ceux qui ne savent pas, Joe est, malgré lui, un de mes grands mentors sur le cheminement personnel que je fais depuis plusieurs années. Donc, merci, Joe, d'embarquer avec moi là-dedans. Merci d'être dans ma vie. Merci de partager tout ça avec moi, avec tout le monde qui l'écoute. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas, écrivez-les. Continuez à commenter, à partager mon podcast. Vous êtes nombreux à le faire, je l'apprécie énormément. Le No Show sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Audioboom, on est facile à trouver. On se dit bonne fin de journée à tout le monde et à une prochaine fois. Peace.